Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Nous allons parler d'un homme de Dieu qui ces temps-ci me touche beaucoup, quelqu'un qui me parle énormément, qui s'appelle Noé. Et j'ai la ferme conviction que Noé a quelque chose à dire à notre génération, quelque chose à nous dire à nous ce matin. Et je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu. On va prendre trois passages qui parlent de Noé. Le premier, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Nous allons lire ensemble. Alors, je vais pas lire toute l'histoire du déluge, mais je vais lire le début et je vais faire un petit résumé après. Donc, vous me suivez, de temps en temps, je vais sauter un verset. Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Et un peu plus loin dans le verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Je m'arrête là, Noé va travailler, le Talmud nous dit qu'il va travailler pendant 100 ans à faire un bateau de 150 mètres de long, une œuvre immense, dans lequel il va non seulement accueillir sa famille, puisque personne dans sa génération n'a voulu croire en sa prédication et rentrer, non seulement il va mettre sa famille, mais il va mettre aussi des représentants de tous les animaux. Ça va être quelque chose, une œuvre gigantesque. Et un jour, Dieu va fermer la porte, la pluie va tomber sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, le déluge, et tous ceux qui sont sur l'arche, sur le bateau, vont être sauvés. Prenons un passage aussi où Jésus nous parle de Noé. Je vous propose d'ouvrir dans Matthieu. Matthieu 24 à partir du verset 37. Vous pouvez lire avec moi. « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus qui parle de Noé, et nous avons aussi troisième passage dans 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 5, la deuxième épître de Pierre. Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les trois textes qui nous parlent d'un homme auquel Dieu a confié une œuvre absolument extraordinaire, une œuvre immense. Et malgré tout, malgré l'ampleur de cette œuvre et la distance qui nous sépare de Noé, plusieurs milliers d'années, je suis convaincu que Noé a quelque chose d'important à nous dire. Rien que, parce que si vous prenez les paroles de Jésus, vous voyez que Jésus compare la génération qui précède son retour, donc la génération des temps de la fin, il la compare à la génération de Noé. Je remarque lorsque je lis dans les trois passages, que la génération du temps de Noé ressemble étonnamment à la nôtre. Je pense qu'on a déjà beaucoup entendu sur ça. Je pense que les chrétiens à Valence sont pas différents des chrétiens dans le reste de la France, dans le monde. Nous voyons une corruption, nous avons un mal qui augmente, mais nous voyons aussi des caractéristiques nouvelles dans ce siècle qui nous font penser de façon frappante à la génération de Noé, parmi lesquelles une impiété croissante, l'indifférence religieuse que nous voyons autour de nous, mais aussi la corruption. C'est quelque chose de très étonnant pour notre famille. Lorsque nous rentrons en France tous les deux ans, moi, à chaque fois, j'ai un choc quand je vois le niveau de corruption, j'emploie même le mot de débauche, qu'on peut voir sur les écrans de télévision, qu'on peut voir par Internet. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous réagissez, vous êtes complètement immergé, ça vous touche, ça grandit petit à petit, jour après jour. Et pour nous qui rentrons tous les deux ans, je ne sais pas si la famille Nicole qui a une expérience similaire, c'est assez frappant de voir comme les niveaux de corruption et les niveaux d'impureté grandissent dans la société française. C'est quelque chose qui me fait penser à la génération de Noé, avec cette phrase de Jésus aussi qui est assez surprenante, en disant voilà, ben, au temps de Noé, ben, les gens ils mangeaient, les gens ils buvaient, les gens ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, et un jour le déluge est venu et les a tous emportés. Et je crois que Dieu ne nous dit pas, à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, ne nous dit pas à chacun d'entre nous, fais-toi une arche, bâtis un bateau. N'empêche qu'il nous dit à tous de faire une œuvre. Dieu nous a confié une œuvre à chacun d'entre nous. Dieu nous a confié une œuvre à notre famille au Sénégal. Dieu nous a confié une œuvre, parfois c'est une œuvre personnelle, parfois c'est une œuvre collective. De toute façon, nous devons travailler en église, parfois c'est rentrer dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est une œuvre que Dieu nous confie directement et personnellement. Mais je crois que nous pouvons voir ce matin l'Arche de Noé comme un exemple et un modèle de ce que peut être une œuvre chrétienne. Et je voudrais prendre avec vous rapidement quelques caractéristiques qui m'ont frappé ces derniers temps dans l'Arche de Noé. Et parmi lesquelles, il y en a certaines qui m'ont vraiment profondément surpris et même bouleversé. La première, c'est que Noé est une sentinelle. Quelqu'un qui avertit. Lorsqu'il construit ce bateau immense, il est en train, en travaillant, d'avertir sa génération qu'il y a un désastre qui va survenir, le déluge. C'est un avertisseur, c'est une sentinelle. Et je crois que le Seigneur nous appelle, dans les œuvres qu'il nous a confiées, à ne pas oublier cet aspect, qui est un aspect qui est très très difficile, et d'autant plus difficile à mettre en œuvre, que nous sommes justement dans une génération qui ne supporte plus d'entendre des prophètes de malheur, des gens qui parlent sérieusement, des gens qui parlent de jugement. C'est même un mot qui fait mal aujourd'hui. J'espère que votre Église trouve des moyens de plus en plus de parler à la société française avec des mots qu'elle peut recevoir. Mais beaucoup de mots bibliques, beaucoup de réalités bibliques sont très difficiles à recevoir pour la génération de Noé. Et le Seigneur nous appelle, malgré le ridicule, c'est que Noé était probablement une des personnes qui était le plus ridicule. Il faisait un bateau alors qu'il n'avait jamais... Il construisait un bateau au milieu du désert, probablement sous les colibés, avec sa famille. Il a probablement mis tout son argent dans cette œuvre, parce que Dieu lui a pas envoyé de l'or du ciel. Donc il a construit, il a acheté du bois, il a fait une œuvre au milieu du ridicule dans sa génération. Et je crois que nos œuvres chrétiennes, nous sommes à un culte de rentrée ce matin, et c'est le moment, après les temps de repos, de regarder nos œuvres à la lumière de ce que Noé peut nous apprendre, le côté d'avertissement. Nous devons avertir la génération d'aujourd'hui que Dieu ne laissera pas l'impureté, l'impiété, la débauche, la corruption sans jugement, et que le Seigneur revient. Amen. C'est difficile. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour nous en Afrique, et je crois que c'est même plus difficile pour vous qui est en France d'annoncer. Parce que quand on travaille au Sénégal, on parle de ces réalités et les gens les saisissent et les gens les connaissent. Mais ici, c'est probablement plus difficile. Noé, c'est pour ça que j'ai choisi le troisième passage. Pierre appelle Noé un prédicateur de la justice. Alors ça, c'est intéressant parce que quand on lit l'histoire de la Genèse, c'est quelque chose qui n'apparaît pas en premier plan. Mais je crois que Noé porte un nom qui signifie en hébreu « consolation ». Et dans la Genèse, dans cette histoire du déluge, ben, il n'y a pas beaucoup de consolation. C'est une histoire terrible, en fait, celle du déluge. C'est la destruction de millions de vies. Et c'est quelque chose où il n'y a pas beaucoup de consolation. Mais dans cette histoire, Dieu nous appelle à parler de consolation, donc à prêcher la justice, le salut qui est en Jésus-Christ. Noé ne connaissait pas Jésus. plusieurs milliers d'années avant le Seigneur, mais toute sa vie a été un acte prophétique qui préparait à l'arrivée de Jésus et à l'Évangile. Vous savez que je pense que vous avez déjà entendu des prédications à ce sujet, mais l'arche de Noé, c'est Jésus. L'arche de Noé, c'est l'Église, c'est l'Évangile. Jésus est l'arche parfaite en qui tous ceux qui le désirent peuvent se réfugier et sont protégés contre le jugement et sont protégés aussi contre bien d'autres choses. Donc Noé, lorsqu'il construisait ce bateau, il faisait un acte prophétique à deux niveaux. Il annonçait le déluge qui allait venir, mais beaucoup plus loin que ça, il annonçait aussi la venue du Fils de Dieu, l'arche parfaite dans laquelle l'humanité peut venir se réfugier contre la colère et contre le jugement. Donc souvent, lorsque le Seigneur nous appelle à faire un travail pour lui, lorsque le Seigneur nous appelle à une œuvre, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a toujours une dimension prophétique, une dimension d'annonce de la justice, une dimension d'annonce de l'Évangile. Donc nous, les évangéliques, nous sommes généralement assez à l'aise avec ce sujet. Nous annonçons l'Évangile par nos œuvres. Par contre, peut-être que le point suivant, c'est quelque chose qui est plus difficile à accepter dans les églises. C'est qu'en fait, l'arche de Noé, je me suis aperçu qu'elle avait une dimension de refuge. C'est quelque chose qui m'a énormément parlé par rapport à notre ministère en Afrique. Nous avons, depuis 12 ans, nous sommes avec la traduction de la Bible. Nous avons fait de l'alphabétisation. Actuellement, mon épouse est en train de travailler dans un projet où elle introduit une langue africaine dans l'éducation nationale afin que les enfants de ce peuple, le peuple sérère du Sénégal, puissent comprendre ce qu'ils entendent à l'école, parce qu'actuellement la scolarisation est faite entièrement en français. Et les enfants de ces petits peuples sont des enfants qui sont très faibles, qui n'ont pas la chance, qui n'arrivent la plupart du temps pas à sortir du système scolaire. D'ailleurs, quelque chose de très intéressant dans la Wycliffe, et qui n'est pas très connu, c'est que la Wycliffe, en traduisant la Bible pour des ethnies minoritaires, vous savez, aujourd'hui, il y a à peu près 2000 ethnies, 2000 langues qui n'ont même pas un Nouveau Testament dans leur langue, ça représente à peu près 200 millions de personnes, et moi je les appelle les oubliés de la mondialisation. C'est des petits peuples, parfois qui comptent seulement quelques milliers de personnes, parfois plus grands, quelques centaines de milliers de personnes, et qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur langue. En travaillant, en faisant de la linguistique, en mettant ces langues par écrit, et en apportant la parole de Dieu, les missionnaires de la Wycliffe font un travail assez extraordinaire de plaidoyer en faveur de ces petits peuples. Parce que la plupart du temps, dans les nations, par exemple dans les nations africaines, il y a une tendance à vouloir écraser, au nom de l'unité nationale, ces petits peuples. Et la Wycliffe fait un travail de refuge, fait un travail de plaidoyer et de protection rien qu'en mettant la langue de ces peuples par écrit. Et le Seigneur nous a appelés, avec notre famille également, à nous engager en faveur des enfants, qu'on appelle les enfants talibés. Est-ce que vous vous souvenez d'une émission qui était passée il y a à peu près 3 ans sur Talassa, qui s'appelait « Les enfants perdus de Mbourg » Est-ce que quelqu'un avait regardé cette émission sur Talassa? C'était une émission qui parlait des enfants talibés, des enfants qui étaient confiés à des maîtres coraniques, qui quittaient leur famille et qui se retrouvaient, qui étaient battus, qui devaient apprendre le Coran par cœur. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont dans cette situation au Sénégal. Et le Seigneur nous a parlé dans l'Église, il nous a dit « Nous devons là-bas faire une œuvre de refuge pour ces enfants. » L'arche de Noé était un refuge, non seulement contre le jugement et la colère de Dieu, mais Noé avait fait des provisions de nourriture, et l'arche de Noé était un refuge physique contre la pluie, contre le froid, contre la faim. C'était un endroit où les créatures les plus faibles pouvaient trouver refuge. Et la question que je te pose, c'est toi qui as reçu cet appel du Seigneur, toi qui as reçu une œuvre à faire dans ta vie, est-ce qu'il y a une dimension de refuge? Refuge envers les plus démunis, les pauvres, les affamés, les malades, ceux qui sont seuls. C'est quelque chose qui plaît énormément au Seigneur. La protection des petits. Lorsque je vois les églises évangéliques qui se sont fortement engagées auprès des pauvres, je remarque que c'est des églises qui ont été profondément bénies par le Seigneur. Et je vous demande aujourd'hui, après mon passage, de réfléchir à la dimension refuge qu'il y a dans les œuvres que vous faites. Je remarque que l'arche était un refuge physique. Parfois, nous, les chrétiens évangéliques, nous parlons beaucoup, nous annonçons la doctrine, mais le monde a besoin de voir la matérialisation de nos arches, a besoin de voir des lieux, nos maisons, des centres d'accueil, des camps de vacances, qui peuvent être aussi des lieux virtuels, comme des sites internet, mais des endroits où les gens peuvent trouver refuge, abri, consolation et rencontrer le Seigneur. Donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans ce qu'a fait Noé. Il y a quelque chose d'ailleurs, il y a quelque chose qui me frappait hier soir quand je relisais ces passages, c'est que les animaux de l'arche, moi ils me font penser à des personnes du Nouveau Testament, ben, c'est les invités, la parabole des invités aux noces. Vous savez, le roi qui fait un festin, qui invite, et les invités prestigieux, ben, ils veulent pas venir, ils sont pas venus. Et qu'est-ce que fait le roi? Il est fâché. Et il dit, bon, ils n'ont pas voulu venir. Alors allez me chercher tous ceux qui sont dans les coins, les estropiés, les malades, les boiteux. Moi, j'ai l'impression que les animaux, dans l'arche de Noé, ben, ils jouent un peu ce rôle. Les gens veulent pas rentrer dans mon arche. Les gens veulent pas échapper au jugement. Eh ben, je vais faire rentrer les animaux. Et il y a une dimension vraiment qui m'a touché ces derniers temps, parce qu'en fait, j'y avais jamais pensé. C'est qu'en fait, l'arche de Noé est un refuge pour le vivant. Ça m'a énormément touché. En tant que chrétien évangélique, ça fait 25 ans que je suis avec le Seigneur, des choses auxquelles je n'ai pas vraiment pensé jusqu'à présent, c'est qu'en fait, Dieu maintient sa responsabilité, la responsabilité de l'homme envers le vivant, même dans le déluge. Dieu a confié à Adam et Ève, il nous a confié à toute l'humanité la gestion, l'intendance du vivant. Nous devons protéger, garder la terre, nous devons dominer, maîtriser la création. Et Dieu nous dit, c'est pas parce que vous avez raté que vous êtes absous de votre responsabilité envers le vivant. Le Seigneur nous a parlé tout au début de notre ministère au Sénégal. Il nous a montré, vers l'an 2000, une étendue de terre complètement désertique. Et il nous a dit, je veux que vous fassiez une œuvre à cet endroit. Et la première chose que nous avons fait, c'était, j'ai pas de photo à vous montrer, mais Jean-Pierre est allé visiter ce projet qu'on a appelé le projet Beersheba. Et c'est un endroit où il y avait plus que 6 espèces de plantes. C'était complètement désertique, c'était martelé par le bétail. Hein, Jacques, tu connais ces paysages sahéliens où tu vois de temps en temps un petit arbuste. Il y avait en tout et pour tout 2 baobabs. Et en quelques années, la forêt est revenue. Nous avons clôturé 100 hectares. Et 50 000 arbres ont régénéré, les animaux sont revenus. C'est aujourd'hui un endroit qui commence à être un endroit magnifique, extraordinaire. Et c'est un endroit dans lequel nous voulons annoncer la parole de Dieu, former des disciples en langue maternelle, le sérère. Nous nous intéressons beaucoup à l'utilisation que le peuple sérère, qui dispose maintenant de la Bible en entier, c'est une rareté en Afrique, ce peuple... La façon dont il utilise les Écritures, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et nous voulons que le centre Beersheba soit un centre où les fermiers pauvres du Sénégal, et particulièrement les fermiers chrétiens, puissent apprendre l'agriculture, apprendre à gérer leur vie, apprendre à prendre soin du vivant et devenir des modèles dans leurs églises. Et le Seigneur nous a, dans notre ministère, a connecté le ministère linguistique, le ministère d'annonce de l'Évangile et le ministère en faveur du vivant. Et c'est pour ça que récemment, en reprenant cette histoire de Noé, je me suis aperçu que toutes ces dimensions, elles étaient dans l'arche de Noé. Et la question que... Je ne sais pas quel est le... J'ai remarqué que votre église a un très fort engagement envers l'Afrique. Si je vois les pays, je vois Éthiopie, je vois le Kenya. Vous avez fait un camp, n'est-ce pas, au Kenya? Il y a eu un camp de jeunes qui s'est fait cet été, je crois, avec les Maasai. Hein, il y a eu aussi, vous avez un engagement assez fort à Madagascar, et je crois qu'il y a eu aussi un camp au Burkina Faso, n'est-ce pas? Bon, je connais pas beaucoup d'églises qui sont engagées de la sorte en Afrique, et je vous félicite de ça, ça me touche. Et je voudrais vous demander, est-ce que dans les œuvres que le Seigneur vous a appelé à faire dans l'église, est-ce qu'il y a une part pour le vivant, pour notre responsabilité? Souvent dans la théologie évangélique, nous considérons comme des intendants de la nouvelle création plutôt que de la création. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur ne nous a pas retiré notre responsabilité sur le vivant. Et je regrette beaucoup que l'Église évangélique, qui devrait être à la pointe du combat pour l'écologie, ben finalement est en train un petit peu de monter dans les derniers wagons du train, alors qu'on devrait être dans la locomotive. Et c'est quelque chose qui m'attriste, parce que je vois Dieu, dans le projet Beersheba et dans d'autres, se glorifier également au travers du vivant, tout ce qui est vert, tout ce qui pousse, on a des animaux qui sont revenus, c'est quelque chose qui touche le cœur des gens profondément et qui les prépare pour l'Évangile. Donc ce matin, que la personne de Noé, que son œuvre, que les différentes dimensions de cette œuvre de l'arche, prédication de la justice, avertissement, refuge et protection du vivant, puisse simplement te parler, nous parler alors que nous rentrons. Est-ce que mon œuvre est une œuvre qui comporte des dimensions plus larges que celles que je vois actuellement? Est-ce que mon œuvre est une œuvre qui plaît profondément au Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à aligner nos œuvres sur sa pensée. Que le Dieu vous bénisse. Amen.